Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Look, Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Olia Orton de la rédaction en anglais.
Hello.
Pour la rédaction en roumain, Mihaela Antoke.
Bonsoir et merci de m'accueillir. C'est pour
la première fois.
Pour moi.
Bienvenue à vous. Et Elsa Vidal de la rédaction russe.
Dobry vecher.
Bonsoir, mesdames. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est la question migratoire. En Europe comme en France, où la loi votée cette semaine provoque bien des remous, l'Union européenne revoit également ses règles. L'occasion pour nous de voir ce qui se passe actuellement sur le vieux continent. Elsa, justement, la question migratoire qui est également au cœur de la guerre menée par la Russie à ses nombreux voisins européens comme la Pologne et la Finlande. Enfin, guerre indirecte, on va dire.
Oui, une guerre indirecte. Ce sont deux pays que vous venez de nommer vers lesquels la Russie et son allié, le Bélarus, dirigent sciemment des flux de migrants au moyen de vols charter spécialement affrétés depuis des pays de départ au Moyen-Orient, notamment comme l'Irak. Et ce mois-ci, la Finlande a dû fermer à deux reprises sa frontière terrestre avec la Russie. Au printemps et à l'été 2021, c'est la Lituanie, la Pologne et la Lettonie qui avaient été confrontées à des migrants toujours des mêmes pays, envoyés vers leur zone frontalière, une pratique qui avait été condamnée en juillet 21 par le Conseil européen. Et c'est aussi une politique qui est au cœur d'arguments utilisés dans la contestation par Moscou, contestation de ce que la Russie considère comme étant l'hégémonie occidentale sur l'ordre mondial. Ainsi, toute question susceptible d'enflammer le débat politique dans nos démocraties est un instrument privilégié pour le Kremlin. Et la capacité des États à contrôler leurs frontières et les entrées et sorties du territoire national est ainsi questionnée, notamment pour démontrer que le modèle russe est plus efficace, notamment en matière de souveraineté.
Et puis la Russie prête un intérêt particulier à ce qui se passe en France ?
Ah oui, en septembre dernier, l'agence d'État TASS titrait sur la part des migrants dans la société française qui avait atteint 10% de cette dernière, avant de souligner que désormais, un tiers des Français avaient des parents d'origine étrangère. L'agence Regnum, quant à elle, affirmait le 15 décembre que la loi sur l'immigration menait la France tout droit vers l'explosion et que désormais, les émeutes noires avaient dépassé les protestations des Gilets jaunes. Car la critique de la politique migratoire française dans la presse officielle n'insiste que sur les difficultés et risques que celui-ci connaîtrait, détournement, coûts exorbitants, émeutes, risques terroristes. L'approche consiste avant tout à souffler sur les braises et à rassurer les citoyens de la Fédération de Russie sur le bon ordre qui existerait à contrario dans leur pays.
Est-ce qu'on peut dire que l'État russe mène une politique anti-migratoire ?
Absolument pas. Ce qui n'est jamais dit dans ces articles, c'est que la Russie, bien plus que la France encore, est un pays d'immigration. Le pays est régulièrement classé en deuxième, parfois en troisième place du peloton de tête des pays vers lequel se tournent le plus souvent les migrants, et elle accueille plus de 11 millions d'immigrés selon l'Office mondial des migrations, un total d'à peu près 8% de sa population. Elle a d'ailleurs besoin de travailleurs migrants en grand nombre pour soutenir son économie et la baisse de sa population, moins nombreuse aujourd'hui qu'en 94.
Et est-ce qu'on parlait de guerre, la vraie guerre, enfin la guerre directe, hein, la guerre en Ukraine, est-ce qu'elle a un impact sur cette situation ?
Oui, elle a un impact direct sur cette situation, puisque les flux migratoires ont fortement évolué. Notamment, on commence à être à un équilibre entre les migrants qui arrivent en Russie et ceux qui la quittent. Mais surtout, les profils de ces migrants ont véritablement évolué, puisque parmi ceux qui partent, on compte plutôt des hommes, plutôt jeunes, ayant la nationalité russe et craignant la mobilisation. Quant à ceux qui arrivent, ils sont à égalité des hommes et des femmes, et dans une très grande majorité, originaire d'anciens pays soviétiques, tout particulièrement d'Asie centrale.
Mihaela Antoke, la Roumanie a des frontières avec l'Ukraine, hein, mais aussi avec la République de Moldavie.
Oui, c'est vrai. N'oublions pas que les réfugiés ukrainiens que la Roumanie a reçus depuis le début de la guerre en Ukraine, ils sont soutenus financièrement de l'État roumain. Certains d'entre eux sont allés dans d'autres pays, environ quelques dizaines de milliers, probablement, sont restés en Roumanie. Dans cette courte radiographie de l'immigration et la Roumanie, n'oublions pas les immigrants de la République de Moldavie, environ 200 000, disent des statistiques, avec l'observation que beaucoup d'entre eux ont des papiers roumains.
On vous retrouvera dans quelques instants. Avant cela, Olia, en France, on voit que le sujet de l'immigration fait des vagues. C'est également le cas au Royaume-Uni, hein, puisque le Premier ministre se trouve dans une position très délicate politiquement concernant un plan qui implique le Rwanda.
Tout à fait. Alors, Rishi Sunak a promis depuis le début de son mandat d'être plus dur quant au contrôle des frontières. Il reprend évidemment le flambeau de Boris Johnson. Son slogan actuel, c'est « Stop the boats », arrêtez les bateaux, en référence des migrants qui arrivent illégalement depuis le nord de la France dans les embarcations délabrées pour chercher asile en Angleterre. Plus de 110 000 migrants ont traversé la mer depuis la Grande-Bretagne a commencé à enregistrer en 2018 et près de 30 000 personnes sont arrivées illégalement par cette voie cette année. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas survécu. En tant que fils d'immigré, Sunak se positionne comme quelqu'un qui comprend pourquoi les gens veulent venir en Angleterre. C'est un beau et fort pays, dit-il, mais tout simplement, il faut venir en règle et il ne faut pas sauter les étapes. Ce n'est pas juste que les gens qui arrivent illégalement soient accueillis tout de suite quand d'autres attendent depuis longtemps pour leurs papiers. Il a compris la frustration de ses compatriotes.
Il y a aussi, il avance également l'argument humanitaire. Lequel ?
Oui, c'est-à-dire pour sauver la vie des gens, le gouvernement veut démanteler ce qu'il considère un réseau des trafiquants qui opèrent dans la région. Ils profitent des migrants, ils empochent leur argent, ils les transportent dans des conditions minables au péril de leur vie. Et donc, le gouvernement a mis en place les mesures déjà pour réduire le nombre de déplacements et réduire le nombre des morts par ces traversées dangereuses. Donc, par exemple, il a signé des accords avec des pays comme l'Albanie, avec Bulgarie et bien évidemment la France. Mais il veut aller toujours plus loin. Et son projet phare s'appelle Safety of Rwanda, Asylum and Immigration. Donc, c'est là où on entend parler de Rwanda. Il veut envoyer les gens illégalement arrivés sur le sol britannique là-bas.
Et le Royaume-Uni a déjà signé cet accord avec ce pays d'Afrique de l'Est et payé presque 300 millions de livres pour le mettre en place.
Exactement. Il s'était annoncé en avril 2022. Ce projet n'a toujours pas été mis en œuvre parce qu'il a rencontré plusieurs obstacles légaux. Voici maintenant une de ses échanges avec la presse britannique, Rishi Sunak, au début du mois.
One of my five priorities at the beginning of the year was to stop the boats, and I'm pleased that we've made progress, down by a third.
Alors, que disait-il à l'époque ?
Alors, il a réduit par un tiers le nombre de personnes arrivées sur le sol britannique depuis qu'elle a mis en place les différentes mesures que j'ai mentionnées juste avant. Donc, il est très content du progrès, mais il dit qu'il y a encore du chemin à faire. Il veut arrêter la manège légale, comme il dit, qui bloque ce plan de Rwanda. Il veut donc dépêcher de mettre les migrants dans les avions pour les envoyer là-bas. Et l'emphase de Sunak est sur une méthode beaucoup plus dissuasive qui donne le message tout simplement que si vous venez ici illégalement, vous serez renvoyé. Et renvoyé pour toujours. Hein. Et plus jamais le droit de mettre les pieds sur le sol britannique.
C'est un départ sans retour. Le Premier ministre insiste également sur le fait que le Rwanda est un pays sûr et que le Royaume-Uni est dans tous ses droits souverains en voulant protéger ses frontières.
Or, il y a des groupes humanitaires qui ont protesté cette décision parce qu'ils ont dit que le Rwanda n'est pas du tout un pays des droits de l'homme. Alors, Sunak, pour contourner une décision de la Cour suprême qui a dit que c'était illégal, il a décidé de soumettre cette proposition à un vote de ses membres de Parlement. Donc, il a fait ça la semaine dernière. Et il a reçu 313 voix contre 269 en faveur de cette proposition. Donc ça apporte un petit soulagement à Sunak, mais il reste à mettre en place ce plan.
Et parlez-nous de cette solution très controversée qu'a trouvé le gouvernement britannique.
Alors, en attendant le plan de Rwanda, il faut placer les chercheurs d'asile quelque part. Donc, pour réduire le coût de l'hébergement dans les hôtels, dans les régions, il fallait quand même les loger quelque part. Donc, ils ont trouvé une idée de les mettre sur un bateau qui s'appelle le BB Stockholm, qui est basé sur le côté sud de l'Angleterre, à Portland. Alors, il y a à peu près entre 200 et 500 personnes, je ne sais pas actuellement combien, mais jusque 500 personnes peuvent être accueillir ce navire temporairement en attendant une solution plus long terme que Sunak espère va être le Rwanda. Mais les migrants ne sont pas contents. Ils disent qu'on n'est pas traité comme les êtres humains. On a quelques mètres carrés seulement. Ça manque d'intimité. Il y a aussi des tensions avec des résidents des villes qui sont subitement submergés par une arrivée de migrants et qui se promènent dans la ville.
Des problèmes d'hygiène également ?
Oui, je crois qu'il y a des problèmes à tout niveau. Et donc, ça rend l'exercice... Déjà, ça fait une publicité pour ne pas venir en Angleterre parce que vous allez être traité comme ça.
On voit bien que la question migratoire est un sujet qui monte en Europe. Là, on parle de l'Europe de l'Ouest, hein, la France, la Grande-Bretagne. Mihaela, ces débats sur le droit de l'immigration ont été suivis avec intérêt en Roumanie ?
Tout à fait, Philippe. La Roumanie est un pays européen, fait partie de l'Union européenne depuis 2007 et est soumise au mécanisme de solidarité européen en matière d'immigration. La Roumanie a commencé à être préférée par les gens venant de l'Inde, de Sri Lanka, des Philippines, du Népal, du Nigeria, du Bangladesh et il y a certainement d'autres pays. Ils reçoivent des permis de travail et de séjour et s'engagent dans de nombreux domaines où il y a pénurie de main-d'œuvre et ici la Roumanie ne fait pas d'exception à la France. Construction, restaurant, hôtel, nettoyage et ménage et des nounous pour les bébés. Et voilà, les travailleurs étrangers restent une solution lorsqu'il n'y a pas d'autres variantes. Selon Eurostat, ils préfèrent travailler légalement en Roumanie plutôt qu'aller dans d'autres pays et travailler illégalement. Bien sûr qu'ils choisissent, ils peuvent avoir cette possibilité des États de l'Europe occidentale ou de Royaume-Uni.
Et il faut savoir que la Roumanie compte une importante diaspora, c'est-à-dire des nationaux qui sont partis vivre à l'étranger, comme vous d'ailleurs, hein, qui vivez à Paris.
Mais oui, c'est vrai. La Roumanie compte plus de 19 millions d'habitants et plus de 4 millions de Roumains vivent à l'étranger. La Roumanie a une population majoritaire vieillissante, malheureusement. Le nombre d'émigrants était plus élevé que le nombre d'immigrants, avec un peu plus de 16 000 personnes, comme je le disais. Alors le rapport est le 6 à 1. Ce qui est vraiment très intéressant, et c'est une particularité pour la Roumanie, c'est le fait que la Roumanie est un pays d'émigration. Ce phénomène d'émigration étant un facteur très important pour ce qui signifie la diminution de la population. L'Institut national de la statistique montre qu'au niveau de 2021, les hommes ont émigré plus que les femmes, environ 50%, tandis que parmi les immigrants, les hommes sont 55%. Alors la Roumanie est parmi les premiers, deuxièmes pays au monde dans le classement des pays avec la plus forte émigration.
Donc les gens qui partent et l'immigration, c'est les gens qui arrivent.
Exactement, il faut préciser ça.
On parlait de l'immigration tout à l'heure avec vous, Elsa Vidal. Vous disiez la Russie accueillait énormément de migrants. Est-ce qu'il y a des Russes qui partent à l'étranger? Dans quelle proportion? Ou est-ce que ça reste anecdotique?
Non, il y a des Russes qui partent à l'étranger. Ils ont ce flot de... Enfin, ces départs ont été vraiment accélérés par la guerre et ils concernent des hommes jeunes, plutôt des trentenaires, en tout cas à moins de 40 ans, qui se sont localisés en particulier en Arménie, au Kazakhstan, en Turquie.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 heures à Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Question à présent dans Accent du Monde. Où est Alexeï Navalny? Elsa Vidal, vous êtes la chef de la rédaction russe de RFI. L'opposant numéro 1 au Kremlin a disparu il y a 17 jours de cela et les membres de sa fondation cherchent désespérément à savoir où il est et ce qu'il est devenu.
Oui, et ça fait maintenant donc 17 jours, comme vous le disiez, et plusieurs jours que cette question se pose quotidiennement sur les réseaux sociaux et que les chefs d'État étrangers ont aussi fait entendre leur inquiétude vis-à-vis de celui qui est le premier opposant à Vladimir Poutine. Et cet avocat, qui a été condamné à 19 ans de prison, ne s'est pas présenté le 7 décembre à une audience, l'audience qu'il avait dans l'un des 14 procès en cours contre lui et dans lesquels il est menacé de 35 ans de prison additionnelle. C'est à partir de là que ses avocats se sont inquiétés. Le personnel de la colonie pénitentiaire, comme on appelle les prisons en Russie, où il purge sa peine, à peu près à 120 km à l'est de Moscou, a d'abord gardé le silence avant d'indiquer que Alexeï Navalny se trouvait en détention provisoire à Moscou. Mais ses partisans ont fait le tour de l'ensemble de ces lieux de détention dans la capitale, en vain, et c'est alors qu'on a appris qu'il ne figurait plus sur la liste des effectifs de l'établissement pénitentiaire de Vladimir où il était détenu.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a été acheminé vers un autre centre pénitentiaire?
Ça pourrait être l'explication logique, puisque suite à sa dernière condamnation pour extrémisme à 19 ans de prison, il aurait dû être transféré vers une prison qu'on appelle à haute sécurité, où les traitements sont particulièrement sévères pour les détenus. Mais dans ce cas, on aurait dû probablement recevoir, ou on devrait recevoir incessamment, un courrier. La règle veut que lors des déplacements, lors des transferts, les détenus n'ont pas le droit de communiquer avec leur famille et avec le monde extérieur. Mais une fois arrivés sur place, une lettre doit être adressée à leurs proches, au moins dans un délai de 10 jours. Elle met généralement 3 semaines à arriver, donc vous voyez qu'on a encore de la marge.
Mmh. Et vous parliez de ces établissements de haute sécurité, il y en a combien en Russie et qu'est-ce que ça veut dire concrètement haute sécurité?
Alors,
pour les détenus,
on décompte à peu près 25 établissements de ce type, et cela veut dire que sur place, vous avez un accès restreint aux moyens de communication vers l'extérieur, que sont le téléphone, vous avez un accès très restreint, une fois par mois seulement, aux visite soit de votre avocat, soit de votre famille. Et dans le cas de Navalny, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes parce que celui-ci est considéré comme l'opposant numéro un. Donc il a notoirement passé énormément de temps à l'isolement, dans un isolement quasi total. Et on craint donc pour sa santé.
Oui, il y a des conséquences. Il a beaucoup maigri, disent ses partisans. Hein.
Oui, il a énormément maigri et il a été affaibli, notamment par une tentative d'empoisonnement qu'il a d'abord subie en 2021. Et on le sait que juste avant de disparaître, il avait dû d'ailleurs être envoyé à l'infirmerie avant donc de ne plus du tout donner de signes de vie. Son avocat a toute raison d'être inquiet. Il a dénoncé donc à de multiples reprises les conditions de détention de son client, et même incarcéré, malgré tout, Alexei Navalny demeure une figure centrale de l'opposition en Russie, puisqu'il est maintenant disparu alors que la campagne présidentielle pour l'élection russe a été lancée. Elle se tiendra, cette élection, les 15 et 17 mars, et ce scrutin, qui sera certainement remporté par Vladimir Poutine, sera néanmoins à marquer d'une pierre blanche, puisque dans très peu de temps, s'il va jusqu'au bout de ses possibilités introduites depuis la modification constitutionnelle de 2020, Vladimir Poutine pourra rester au pouvoir jusqu'en 2036 et il dépassera alors en longévité le record établi par Staline qui était resté 30 ans.
Que disent les autorités russes à propos de la disparition de Navalny?
Eh bien, un peu comme dans le cas de l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya, alors que le monde entier vient leur demander des explications, le Kremlin, le 15 décembre, par la prise de parole du porte-parole justement du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait savoir aux journalistes, notamment occidentaux, que le Kremlin n'avait ni la possibilité ni le droit, ni le désir de connaître l'état et la localisation des détenus en général et d'Alexei Navalny en particulier.
Ouais, c'est surtout le désir, hein, parce que pour le reste, on imagine mal que dans un pays comme la Russie, on puisse disparaître se balader comme cela. Mm-hmm. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Et bien évidemment, c'est à retrouver sur le site internet de la rédaction russe de RFI. Merci à vous, Elsa Vidal. En 1989, avec la chute du mur de Berlin, plusieurs pays d'Europe centrale ont changé de régime. Dans la plupart d'entre eux, cela s'est fait de manière pacifique, sans violence, pas de combat de rue. Mais il y a une exception, et c'est la Roumanie. Mihaela Antoche, la rédaction roumaine de RFI, c'était il y a tout juste, jour pour jour aujourd'hui, il y a 34 ans.
Oui, tout à fait. Le couple Elena et Nicolae Ceaușescu a été chassé et la Roumanie a choisi la démocratie au lieu de tout totalitarisme. Le 16 décembre 1949, les premiers signes de la révolution sont apparus. Cela s'est passé à Timișoara, une ville de l'ouest de la Roumanie. Après, plusieurs croyants ont manifesté leur soutien au pasteur réformé Laszlo Tokes. Il avait reçu une décision de la cour pour l'évacuer. Le mécontentement s'est rapidement transformé, un mouvement qui a balayé toute la ville. L'après-midi, le même jour, on a écouté pour la première fois dans les rues Abba Ceaușescu. Et maintenant, nous arrivons le 17 décembre, le jour où Nicolae Ceaușescu, le président de la Roumanie, convoque une téléconférence avec les dirigeants du parti et les élus, où il leur dit qu'il a donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Timișoara. Je cite « Appel ». Quiconque n'obéit pas est considéré comme un état de nécessité et la loi s'applique. À Timișoara, il y a des coups de feu, il y a des violences de rue et ceux qui se sont rassemblés sur les marches de la cathédrale chantent « Abba Ceaușescu, liberté ». À Timișoara, 43 corps ont été transportés à Bucarest et incinérés pour effacer toute trace de répression.
Alors, Timișoara est considérée comme la première ville libre de Roumanie. Puis ensuite, il y a cette vague de mécontentement qui s'étend à l'ensemble du pays et notamment à Bucarest, la capitale.
Exactement. Nicolae Ceaușescu, qui était en visite en Iran à cette époque, retourne dans le pays et décrète état de nécessité. Il a essayé à travers un discours télévisé pour calmer la nation, en blâmant, je cite, les agences d'espionnage étrangères. Le 21 décembre, il a eu un grand rassemblement diffusé à la radio et à la télévision publique, les seuls qui diffusaient à l'époque. Des mouvements de panique se sont observés parmi les participants. Nicolae Ceaușescu quitte le balcon, la transmission de la radio et de la télévision interrompue. Elena Ceaușescu convainc très vite Nicolae Ceaușescu de revenir sur le balcon avec des promesses d'augmenter le niveau de vie des Roumains, à savoir l'augmentation du salaire minimum, des allocations pour les enfants élargis, etc. Les rassemblements se brisent, les manifestants crient contre la dictature. C'est le moment où, au milieu de la ville, apparaissent le premier blindé et les forces d'ordre supplémentaires.
Qu'est-ce qu'on entend là ?
Qu'est-ce que vous écoutez ? Qu'est-ce que vous entendez maintenant ? Ce sont les manifestants, surtout des gens qui ont formé ce qu'on appelle la barricade de l'intercontinentale, barricade de la intercontinentale. Ici, ils se sont opposés aux forces de répression. Le son provient de premières images tournées de Paul Kosygian, un journaliste roumain qui a travaillé et travaille encore pour divers médias en France. Il a filmé les moments de la révolution roumaine. Il était étudiant à l'époque. Et il m'a mis à disposition tous les sons que vous écoutez en exclusivité ici, Accent du Monde. Qu'est-ce que vous écoutez maintenant ? Ce sont les premiers tirs, les manifestants qui crient « l'armée est avec nous ». Voilà les premiers tirs sur les manifestants pendant la nuit. Ils sont des morts et des blessés. C'était une nuit vraiment sanglante dont on parle encore parmi les participants comme l'abattage de la nuit de 21 au 22 décembre.
22 décembre 89, nous sommes le 22 décembre 2023. En 89, c'est la journée de la révolution roumaine. Hein. Tôt le matin, les grandes usines de Bucarest cessent de travailler après une nuit sanglante. Des milliers de Roumains se dirigent alors vers le centre-ville. L'armée est parti sans commandant, puisque le général Vassili Emilia s'est suicidé. L'armée rentre dans les casernes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive au couple Ceaușescu ?
Alors, des dizaines de milliers de manifestants sont dans la rue, en pleine Bucarest. Puis, ils entrent au siège de comité central. Nous rappelons que ces foules n'étaient pas organisées. Elle n'avait pas de dirigeants, c'était simplement un soulèvement populaire. Nous disons aussi que la securitate, ça veut dire la police secrète, laisse le dictateur toute seule. Tout le monde court autour de lui. Et voilà le peuple qui crie « La Roumanie est libre, je suis libre, liberté, liberté ». À midi, Nicolae Elena Ceaușescu et plusieurs dirigeants du Parti communiste garde-corps quittent le siège du comité central du Parti communiste à bord d'un hélicoptère. Quelques heures plus tard, le couple Ceaușescu est arrêté à Târgoviște.
Que clame la foule ?
Là, ce sont les premières Roumains libres, on peut dire comme ça, dans le balcon du comité central qui essaie de s'organiser. Il est important de rappeler que le 22 décembre à midi, il entre dans le bâtiment de la radio publique et le siège de télévision roumain. Et à partir de ce moment-là, tous les deux, radio et la télévision publique, commencent à diffuser en direct les événements. Le conseil du, comme on dit, Frontul Salvării Naționale est la première structure qui annonçait les premières mesures.
Ceaușescu est donc renversé, il prend la fuite, mais il est arrêté trois jours plus tard, à l'issue d'un arrêté. Et ensuite, il y a un procès très rapide, hein, un procès sommaire.
Hein. La Roumanie fait les premiers pas démocratiques alors, apprendre à vivre en liberté et bénéficie d'un immense soutien international. Des élections libres ont lieu, des partis historiques se regroupent, des nouvelles formations politiques apparaissent. Aujourd'hui, la Roumanie est un État démocratique, membre de l'OTAN, de l'Union européenne, se prépare à rejoindre l'OCDE. Elle a un partenariat très solide avec la France, à laquelle elle est liée par une vieille tradition historique, par la culture, le sport et l'économie.
Et d'ailleurs, il y a un RFI Romania.
Et d'ailleurs, il y a un service en langue roumaine, RFI, à Paris.
Mihaela Antoche, de la rédaction roumaine de RFI. De la culture à présent avec la rédaction anglophone, intéressons-nous au Festival des Trois Continents qui a lieu à Nantes. Enfin, il avait lieu à Nantes, il vient de se tenir. C'était la 45e édition. Olia Horton, qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention ?
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce festival annuel célèbre des longs métrages d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, donc les trois continents, avec une sélection de films de fiction, mais aussi des documentaires. Et cette année a vu 251 séances, 89 films venus de 40 pays. Il y avait 10 films en compétition internationale. Et parmi les thèmes qui étaient proposés, il y avait une rétrospective de la carrière de Amitabh Bachchan, une star absolue de Bollywood en Inde. Et cet acteur et producteur, qui a 81 ans aujourd'hui, il a plus de 200 films à son actif. Il faut signaler aussi que Bachchan est connu non seulement en tant qu'acteur, il a aussi présenté des émissions de télévision. Il s'est fait même élu comme politicien pendant un temps, pendant les années 80.
Et vous avez pu parler avec sa fille.
Exactement, Shweta Bachchan. Elle était invitée au festival pour représenter son père, qui ne pouvait pas venir. Et elle était vraiment ravie et touchée de voir autant de spectateurs français venir partager ce moment de cinéma. Et je lui ai demandé pourquoi le cinéma indien continue d'avoir autant de pouvoir sur le public, non seulement en Inde, mais partout dans le monde.
On a day-to-day level, a lot of people in India have a hard life.
Et quelle est donc sa réponse ?
Alors, elle dit que c'est une belle échappatoire. Le cinéma apporte un réconfort pour beaucoup d'Indiens pour lesquels la vie est très dure. Et il y a toujours un happy end. Donc, son père avait l'habitude de dire, dans l'espace de 2 heures, tous les problèmes trouvent une solution. Le spectateur quitte la salle avec une sensation de satisfaction. Et c'est une bonne chose. Et ensuite, Shweta m'a expliqué qu'elle était aussi persuadée que le cinéma a un certain pouvoir de changer les choses, du moins la perception du monde. Et elle décrit le cinéma comme un miroir de la société.
Que
pense-t-elle ?
Elle dit que les rôles, par exemple, joués par son père, surtout dans les années 70 et 80, montraient une jeunesse qui était en colère, qui était très frustrée. Et grâce au jeu d'acteurs très convaincant de son père, ça a permis à des gens de s'identifier, de formuler leurs idées, de réveiller une fibre politique et aussi de se libérer de leurs contraintes.
Et il y avait aussi, pendant ce festival, un documentaire dédié à cet homme, réalisé par un jeune Français.
Exactement. J'ai pu discuter avec Cédric Dupire, un amoureux de la culture indienne qui a déjà réalisé 2 films là-bas. Il m'en a parlé de cette folie qui entoure l'acteur Amitabh Bachchan en Inde. Et à fur et à mesure de regarder les films, une idée s'est imposée de faire un documentaire expérimental sur ce personnage aussi connu sous le nom Big B, le grand B. Alors, j'ai dit expérimental car Cédric Dupire n'a pas choisi d'interviewer Bachchan, ni les membres de sa famille. À la place, il a concocté un mash-up, une sorte de compilation de clips qui met en lumière le travail de cet acteur au grand talent, qui a des pouvoirs de caméléon et qui se transforme pour chaque rôle.
Et il a intitulé son documentaire « The Real Superstar ».
En anglais, voilà.
La grande star, quoi.
Exactement, le vrai grand star. Alors, Dupire a cherché à poser la question « Qui est le vrai Bachchan et qui est le faux ?» Alors, comment est-ce qu'un homme peut vivre aussi intensément tous ses rôles à l'écran, être adoré en tant que personnage et homme à la vie par les milliers de fans ? Et il nous rassure cependant qu'il n'est pas nécessaire d'être calé en film Bollywood pour regarder « The Real Superstar ». C'est plutôt une forme de hommage qui invite le spectateur à faire leur propre avis de la carrière de Bachchan, plongeant dans les scènes aussi émouvantes que rigolos et dynamiques.
Pour terminer, vous nous proposez d'écouter de la musique ?
Tout à fait. Et juste de rappeler aux auditeurs, les gens qui nous écoutent peut-être en France, que la compétition des Festivals des Trois Continents ainsi que The Real Superstar seront projetés au cinéma de Harlequin à Paris entre le 24 et le 28 janvier, si vous voulez voir ce documentaire expérimental. Et je vous laisse avec un petit extrait d'une chanson qui vient d'un film Bollywood, Amar Akbar Anthony, une comédie sorti en 1971 avec Amitabh Bachchan. Et Shweta m'a dit que c'était un des films préférés dans le répertoire de son père, parce qu'elle préfère les films drôles.
Et c'est ainsi que se termine cet Accent du Monde qui vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment.